vais rentrer.
C'est pour faire Colette.
Vous écoutez la version francophone du podcast de l'Association internationale trappiste, ou AIT pour faire court.
Mein Name ist Hedenberger Michael, ich bin der Braumeister vom Stift Engelszell. Es ist das einzige Trappistenkloster in Österreich und heute sind wir hier beim Generaltreffen der Trappisten in Orval.
Mein Name ist Esther de Vilder, ich bin algemeen directeur von Bierbrauerei de Koningshoeve und ich bin hier vandaag aanwezig bei der Vergadering von het IVT bei Orval.
Oui, je suis Henri-Luc Daluin, directeur général de l'abbaye du Mont-des-Cats und je suis ici pour l'Assemblée générale de l'Association internationale trappiste.
Vous l'entendez, AIT est une association internationale dont les membres viennent du monde entier, avec plusieurs abbayes en Belgique, mais aussi en France, aux Pays-Bas, en Italie, en Autriche, au Royaume-Uni, en Espagne et en République tchèque. Grâce à cette coopération, les différentes abbayes trappistes internationales se dressent pour protéger le nom trappiste. En outre, l'association constitue également un forum pour le partage des connaissances entre eux. La plupart des gens pensent à la bière trappiste. Mais les monastères trappistes produisent bien plus que cela. Et quel meilleur moyen d'illustrer ceci qu'avec un podcast ? Moi, c'est Jeanne. Et avec mes compagnons Ophélie et Achille, on est partis à la découverte de trois abbayes et à la rencontre du spécialiste de la levure, Kevin Verstrepen. Là tout de suite, on se rend dans l'abbaye de Chimay. Nous allons y rencontrer le père Damien.
Alors bienvenue. Bienvenue à l'abbaye de Scourmont. J'avais un petit écriteau avant où je pouvais mettre à ma porte, c'était marqué « Ne pas déranger, oui. je déguste une chimée ». Alors, frère Damien de l'abbaye de Scourmont, je suis le père abbé. Et je suis le représentant de l'abbaye de Scourmont, donc pour les bières de Chimay, au conseil d'administration de l'AIT. Il m'a fallu plusieurs années avant de me décider à rentrer. Hein, donc, quand j'ai pris ma décision de rentrer, voilà, c'était une grande joie et une grande libération. Je vous avoue que les premiers jours pour moi ont été difficiles parce que je me suis demandé évidemment si j'avais pas fait une bêtise, mais et il y a eu des moments de doute, de remise en cause, mais comme dans toute vie. Mais voilà, donc pour ma part, ça fait 17 ans que je suis ici. Et voilà, je suis heureux d'être ici. Je ne regrette pas. Alors évidemment, on pourrait toujours rêver à telle ou telle chose de l'autre côté de la clôture. Mais je sais très bien que ce n'est pas cela qui me comblerait, qui me satisferait. L'AIT, c'est une association pour défendre, si on veut, le caractère trappiste de nos bières, hein, le nom trappiste, de nos bières, de tous nos produits. Hein, ça a commencé avec les bières, mais aussi pour les fromages et puis d'autres artisanats monastiques spécifiquement trappistes. Alors défendre les valeurs, à mon sens, oui, puisque j'estime que nos produits ont une valeur de par leur histoire, de par ce qui se vit dans nos communautés et avec notre personnel, et aussi avec la destination des bénéfices ou la répartition des bénéfices, hein, puisqu'un certain nombre de bénéfices sont utilisés pour des œuvres sociales ou solidaires. Et donc oui, pour moi, c'est aussi une façon de défendre nos valeurs. On n'est pas là pour faire du business, même s'il faut avoir les pieds sur terre, évidemment, mais on n'est pas dans une perspective de faire de l'argent pour l'argent. Alors nous, les moines trappistes, on fait partie de la grande famille bénédictine, hein, des moines bénédictins, c'est la forme de vie religieuse qui a été très développée en Europe occidentale, en tous les cas, hein, en tous les cas pour les moines. Et alors chez les cisterciens, on a beaucoup insisté, alors on parle déjà de ça dans la règle de Saint Benoît, ora et labora, hein, prier et travailler. Mais les cisterciens ont beaucoup insisté sur la dimension de travail. On n'entre pas évidemment au monastère pour, euh, pour s'occuper d'une brasserie ou d'une fromagerie, etc. Mais ensuite, ça fait partie de l'histoire de la communauté et l'importance de ce lien avec une région et au-delà.
On a été surprise d'apprendre que l'AIT ne rassemblait pas uniquement les abbayes qui font des bières, mais également d'autres savoir-faire artisanaux et agricoles. On se rend maintenant chez Sœur Colette, à l'abbaye de Brialmont, dont la communauté fait pousser des champignons.
Ça vous va ici ?
Bien sûr, c'est très bien.
Prends le fauteuil, là. Tu seras mieux. Je suis désolée, les chaises sont aussi vieilles que la tradition. Oh, milliards de milliards.
Tu ne bouges plus. Non, pas possible.
C'est sûr qu'au départ, tant que ça ne concernait que des biais, ben, c'était assez important comme capitaux à gérer, à défendre, etc. Maintenant, l'Association internationale trappiste s'est ouverte depuis des années aussi aux petits savoir-faire des monastères, qui ne sont plus des gros trucs brassicoles. Alors, pourquoi une culture de champignons ? Ben d'abord parce que quelqu'un s'y connaissait un petit peu dans la culture des champignons et pouvait un petit peu nous aiguiller. Parce que c'était peut-être surtout rester dans le secteur agricole, qui est quand même assez typique de nos économies traditionnelles de l'ordre cistercien. Donc c'était quitter quelque part l'exploitation de la ferme, qui pour nous devenait plus difficile au niveau personnel à y investir et aussi économie d'ensemble, mais tout en restant dans ce secteur agricole qui est quand même cher à nos communautés trappistes. Garder les mains dans la terre, pour nous il y a quelque chose d'assez essentiel, d'assez vivant, d'assez... Voilà, c'est du concret, c'est de l'humus, c'est nos origines aussi quelque part. Donc pour nous, c'était vraiment important. Vous n'avez pas pris de petits biscuits ? Fabrication artisanale aussi, mais qu'on ne vend pas au magasin.
Et maintenant, nous nous rendons chez frère Xavier, à l'abbaye d'Orval. Il nous dévoile un peu plus l'attachement à une véritable tradition derrière les bières trappistes.
De la ferme est inspirée directement de la grange Terre d'Oust près de Bruges. Et donc on a refait toutes les installations de la fromagerie dans les années 90. Et puis vous avez ici sur votre droite la brasserie et sur le coin le bâtiment qui date de 1931. Voilà, donc la structure du bâtiment vous donne les étapes de fabrication de la bière. Donc dans le grenier on aperçoit les hauts vents, les stockages du malt, et puis premier étage, la salle de brassage, et dans la cave, la garde, pour les refermentations, et pour Orval, la particularité d'utiliser une souche de levure sauvage, Brettanomyces. La réflexion, c'est... petit à petit, disons, concentré sur un label. Au départ, il s'agissait, et c'est toujours le cas, sur le plan strictement de la protection des marques, d'une marque collective, Authentic Trappist Product. Mais petit à petit, au fil des années, c'est véritablement un label, ou comme on dit aujourd'hui aussi, une certification par rapport à un ensemble de critères. Et ces trois critères sont évidemment reliés à ce qui forme la spécificité et les valeurs de la vie monastique pour nous. Et je dirais la première dimension, la première originalité de toute forme de vie monastique est le choix d'un lieu pour chaque membre d'une communauté. Pour moi-même, c'est d'abord l'appel qu'il a reçu de Dieu à rejoindre à une étape de sa vie un lieu et une communauté précise. Donc le premier engagement que nous faisons comme moine ou comme monial, c'est ce vœu de stabilité. Donc ce qui est premier, c'est cet ancrage dans un lieu. Alors aujourd'hui, dans notre monde économique, ça se traduit par ce que l'on pourrait appeler une dimension locale. Aujourd'hui, de plus en plus, dans un contexte de mondialisation et je dirais de production de masse ou parfois délocalisée, de plus en plus de personnes sont attentives, je dirais, à ce qu'on appelle maintenant de plus en plus des circuits courts, mais tout simplement à connaître la spécificité et la provenance d'un produit. Alors, le deuxième critère, c'est justement l'implication des communautés, donc c'est cette dimension communautaire. À chaque fois, c'est le même niveau de responsabilité et le même niveau d'implication des communautés dans le suivi, dans l'organisation et dans la manière dont le produit va être présenté au public en lien avec cette identité trappiste. Et puis, la troisième dimension, la troisième valeur, mais qui s'inscrit aussi, je dirais, dans l'authenticité, dans cet enracinement en lien avec cette longue tradition monastique de l'hospitalité telle qu'elle est présentée dans la règle de Saint-Benoît. Voilà, c'est cette attention au monde, cette attention à la personne qui vient à la rencontre d'une communauté, et de là naît cette profonde conscience de se situer en solidarité avec ce que vit notre monde d'aujourd'hui. Et donc, concrètement, une partie des revenus générés par nos activités économiques sont redistribués pour des points de solidarité, et alors c'est pour chaque communauté une réponse particulière à un appel concret qui lui est donné. Dans la tradition brassicole belge, je suis d'origine bruxelloise, et donc à la maison, on ne buvait pas, quand j'étais enfant, de la limonade ou du Coca-Cola, mais à table, il y avait cette tradition d'une bière de table. Voilà, et donc je dirais cette présence, tout simplement, depuis mon adolescence, de cette manière, je dirais, d'un vivre ensemble. Et je me souviens que dans un petit village du Brabant wallon, mon père me montrait toujours, en allant chez ma grand-mère, voilà, regarde Xavier, c'est là qu'il y avait la brasserie du village. Et donc ça faisait partie, je dirais, de mes références d'enfance. Et donc je pense que c'est comme cela que dans la plupart de nos communautés cisterciennes trappistes en Belgique est venue l'idée de créer une production de bière. Et alors oui, il y a toujours eu un brassin spécial pour la communauté et pour les retraitants dans cette tradition d'une bière de table avec un taux d'alcool extrêmement faible.
Ce qui est également peu connu au sujet des bières trappistes est que leur levure est le fruit d'une collaboration avec un institut de microbiologie, lequel est dirigé par le professeur de génétique Kevin Verstrepen.
Ja, hallo, ik ben Kevin Verstrepen. Ik ben een professeur.
Oui, bonjour, je suis Kevin Verstrepen. Je suis professeur en génétique, en microbiologie à l'Université de Louvain et aussi directeur du Centre de microbiologie VB. Dans mon laboratoire, on étudie la fermentation en tant que modèle pour la recherche génétique. Mais on fabrique aussi de meilleures levures pour les brasseurs, entre autres. Et à cette occasion, je travaille régulièrement avec les trappistes. Premièrement, on fait parfois des recherches spécifiques concernant leurs levures, leurs bières, et on essaye alors de les aider. Enfin, pour autant qu'ils en aient besoin, parce qu'ils font déjà d'excellentes bières.
Voor zover het dan nog nodig is, want ze maken al uitstekende bieren. Maar ook, zoals je weet, trappisten...
Mais aussi, comme vous savez, les trappistes ne font pas de bénéfices et doivent reverser ceci à la société. Et une partie part vers le domaine de recherche. Donc on a vraiment un très bon lien avec les différents brasseurs trappistes. Mon ancien professeur disait toujours, il est plus simple pour un brasseur de changer de femme que de levure. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on n'est probablement pas loin de ça.
Les produits trappistes portent aussi en eux la marque d'une adresse au monde tout à fait particulière. En effet, le travail, donc le brassage de la bière, la cueillette des champignons, doit avoir lieu dans l'enceinte d'un monastère ou d'une abbaye. Ce travail doit aussi être effectué sous la supervision des moines. Et pour finir, aucun profit ne doit être réalisé et les recettes doivent être investies dans la communauté. Cela peut se faire donc en parrainant de bonnes causes ou en investissant les recettes dans la recherche. Sœur Colette revient sur l'importance de ces exigences pour mieux répondre aux enjeux sociétaux.
Que ce soit nous, nos champignons, ou que ce soit les biscuits, les chocolats, les sirops, tout est parti tout petit et d'un savoir-faire, je dirais, peut-être acquis un peu de l'extérieur, beaucoup de l'autoproduction, l'auto-savoir, et qui s'est transmis au fil de l'histoire. Et donc, c'est important, effectivement, comme patrimoine, de garder ce savoir-là. C'est un petit peu, en fait, je suis responsable de la librairie au magasin. Et il y a toute une collection de petits bouquins, Larousse, je ne fais pas la pub pour la librairie, peu importe, mais qui reprennent un peu... ma grand-mère disait toujours ça, mon grand-père faisait toujours comme ça, les bocaux de mamie, la façon dont grand-père cultivait son potager, la façon... On sent qu'il y a un désir, un besoin de revenir à des origines aujourd'hui, qui ne soit pas une sophistication internationale, mais voilà, qu'est-ce qui se faisait à l'origine et qui avait tout son poids et tout son sens. Mais je pense qu'au niveau de l'AIT, ça doit être quelque chose comme ça. Voilà Marie-Pierre, elle va vous expliquer. C'est la grande patronne.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Ben, j'enlève un peu la terre pour ne pas vendre la terre aux clients.
Il y a des clients qui aiment bien quand ils sont tout petits, il y en a qui aiment bien quand c'est moyen, il y en a qui aiment bien quand c'est gros. Alors quand elle les cueille, chaque barquette a sa spécificité.
Non, comme ça c'est prêt pour la vente. Bon, ben, on va aller voir là où il y a des champignons. Le substrat est composé de paille et de fumier de cheval, un peu de sable, un peu de fumier de poule. Et au-dessus, il y a 10 cm de terre noire, de gobetage.
Et alors, vous allez les cueillir à un certain moment? Comment ça se passe?
À partir de demain, on cueille les plus gros.
Et vous mettez tout autour des bacs?
Oh, s'il n'y a pas beaucoup, une sœur d'un côté, une de l'autre côté, chacune avec son chariot, et on prend les plus gros. Et on a peut-être 5 kilos demain. Lundi, on aura peut-être 10, 20. Et puis, mardi, mercredi, on termine. Et alors, on nettoie le terrain, on enlève toutes les racines qui restent. Et puis, on arrose bien, et puis c'est reparti. La semaine suivante, on attend la troisième volée.
À la fois, ça reste très artisanal, et en même temps, il y a quand même une certaine technicité derrière, au service de l'artisanat, qui est effectivement tout ce petit laboratoire contenu à chaque tasse, chaque cave.
Thank you.
je crois que nous devons sortir et que nous avons le désir, en tout cas, de ne pas y entrer dans les grandes exploitations et les grandes industrialisations. Et je pense que là, l'AIT, là, nos petites contributions de travail monastique et de réalisation de travail monastique a beaucoup à dire dans notre aujourd'hui, où on est une société ultra-économique, multi-économique, à tous les niveaux, et je ne suis pas sûr qu'on doive pas... Non, je suis même sûr, à mon avis, mais c'est le mien et je le partage, qu'on doit revenir à des choses, des réalités plus petites, et que là, nos monastères ont quelque chose à dire. En tant qu'hôtelière, j'accueille quand même beaucoup de monde, des groupes, et beaucoup d'individuels, et de plus en plus d'individuels, de personnes qui nous viennent en post-burnout, en plein burnout, en situation de stress, de désarroi, de déstabilisation. Qu'est-ce que la société m'offre aujourd'hui comme emploi et quelle correspondance entre ce qu'elle offre et ce que je suis, ce que je veux vivre. Et il y a cette super supra-exploitation de l'homme aujourd'hui dans lequel nombre de personnes sont tout à fait déstabilisées et vraiment en burn-out. Et quand je les entends, je me dis, mais de grâce, revenons à nos économies monastiques et à ce que Saint-Benoît prône, de cet équilibre entre la vie spirituelle ou la vie humaine et la soif humaine, tout simplement, et le travail. Mais nos économies monastiques, fondamentalement, voilà, il y a ce critère, subvenir aux besoins de la communauté, subvenir aux besoins de ceux qui viennent frapper, mais pas une économie qui va de surproduction en surproduction pour produire toujours plus et pour gagner toujours plus. C'est une économie ajustée aux besoins de la communauté, point barre. Et je pense fondamentalement, indépendamment de l'AIT, qu'il y a énormément de petits mouvements qui se mettent en place dans ce sens-là. On a ici un groupe de jeunes, entre autres, mais qui cherchent un habitat, à vivre un habitat groupé et à développer vraiment la dimension écologique et sociale, fondamentalement, mais avec des valeurs très, très proches des nôtres. Alors, nos valeurs sont monastiques, sont ecclésiales, sont spirituelles, religieuses, ok, mais elles se retrouvent ailleurs. Et il y a beaucoup de petits mouvements dans ce sens-là. On sent qu'il y a un besoin de la société qui va dans ce sens-là.
Il y a un peu de bazar partout parce que j'étais, comme on ne cueillait pas, je faisais un peu de même.
Là, ouais. Vous-même, vous mangez encore des champignons ou vous n'en pouvez plus?
Si, si. Oui, on en mange. On a mangé des quiches l'autre jour et j'aime beaucoup ceux au vinaigre. Là. Dans la salade, c'est bon. C'est délicieux. On les vend pour l'apéritif. Et alors les chips, les séchés, on peut les manger en chips aussi. Hein.
Je ne sais pas si vous avez déjà goûté.
Non, moi j'ai pas goûté.
Je crois qu'il y a encore une boîte ici parce que j'en ai séché avant-hier.
C'est bon, hein.
C'est vraiment c'est très goûteux. C'est dingue.
C'est meilleur que des chips patates.
C'est bien meilleur que des chips patates.
C'est pour qu'on en reprenne?
Ouais.
Eh ben, avec plaisir.
Vous venez d'écouter un podcast de l'Association internationale Trappiste, ou simplement AIT. Une production de Podcast Planet. Derrière les interviews et le montage, on trouve Achille Van Inkelgem de Podcast Planet, ainsi qu'Ophélie Bouffil et Jeanne Gougeot des Microsondes. Un grand merci à frère Xavier, professeur Verstrepen, frère Damien et sœur Colette.
Buvez votre café, Millard, je n'y pensais plus.